c'est l'heure des enjeux internationaux. Arrivez-vous à croire que vous allez devenir première ministre ? A demandé dimanche la journaliste politique vedette de la BBC, Laura Kusenberg. La question pouvait avoir l'air étrange, mais c'est en réalité celle que se pose un bon nombre de Britanniques, à en lire la presse de ces derniers jours. Plus on en sait sur elle, moins elle a l'air compétente, écrivait même un éditorialiste du Guardian à la plume acide hier matin. Et selon un récent sondage, YouGov, 52% des Britanniques estiment que Liz Truss sera un mauvais, voire une très mauvaise première ministre. Il n'en reste pas moins au Royaume-Uni et Liz Truss sera donc la troisième femme à la tête de la nation après Margaret Thatcher entre 1979 et 1990 et Theresa May entre 2016 et 2009. Alors, Liz Truss est-elle en phase avec le pays ou seulement parmi les membres de son parti, les conservateurs britanniques? Pour répondre à ces questions et à d'autres encore, nous sommes ce matin avec Sarah Picard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste des jeunes et de la politique en Grande-Bretagne. Liz Truss, Sarah Picard, a été élue selon un processus très particulier. Est-ce que vous pourriez revenir sur les différentes étapes de cette nomination ?
Oui, bien sûr. Donc après la suite de démission de Boris Johnson, on l'annonce, c'est d'abord les députés du Parti conservateur qui ont fait un vote sur plusieurs candidats pour finir avec deux candidats, Rishi Sunak, le chancelier de l'Exchequer à l'époque, et Liz Truss. Et parmi ces députés, il y a donc la majorité ont voté pour Rishi Sunak et pas du tout Liz Truss. Elle est élue parmi ses députés avec la plus petite proportion depuis longtemps. Donc, c'est déjà une source de problème pour elle. Elle n'est pas très populaire au sein de ses propres députés. Ensuite, nous venons de vivre 8 semaines de campagne parmi tout le pays pour que les adhérents du parti, les membres, les 172 000 personnes élues le premier ministre, pas le chef du parti, et donc le premier ministre. Et donc, parmi ces 172 000 personnes qui sont en majorité masculins, plus de 50 ans, blancs, vivant dans le sud de l'Angleterre, ils ont choisi Liz Truss, mais avec une moins grande majorité que beaucoup ont pensé.
Qu'on le pensait, effectivement, hein, 57% seulement des suffrages, donc pour ce corps électoral assez particulier, donc c'est prononcé en faveur de Liz Truss. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus encore sur ce profil sociologique et politique des membres du parti qui ont voté? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il représente par rapport au corps électoral britannique en entier, Sarah Picard ?
Bon, les adhérents sont plutôt, dans quel que soit le parti politique, plus radical que le lecteur, lectrice habituel. Ils sont plus, et parmi le parti conservateur, ils sont plus à droite, plus radical, plus néolibéral, plus capitaliste, plus en faveur d'une petite intervention de la part de l'État. Et donc, Liz Truss, pendant cette campagne, elle a visé, pendant 8 semaines, elle a visé ce public-là, assez spécial, et pas du tout typique de le reste du pays, qui est en souffrance économique, financière, sociale. Oui. Et donc, elle a fait campagne pour ces personnes-là. C'est pour ça qu'elle a parlé du fait que la redistribution de la richesse du pays ne l'intéressait pas, etc.
Alors, c'est vrai qu'il ne représente que 0,3% du corps électoral. S'amuse à souligner pas mal de journaux britanniques ces derniers temps. Et effectivement, comme vous le disiez, elle a eu un programme qu'elle a développé et orienté vis-à-vis de cet électorat particulier. Elle a promis dès son premier jour donc des baisses d'impôts massives, des coupes budgétaires dans les programmes sociaux, alors que le pays est confronté à une inflation qui dépasse les 10%. C'est assez étonnant, Sarah Picard.
Oui, elle a étonné beaucoup d'économistes aussi. Oui, on est à plus de 10% d'inflation, ça va monter en octobre. Les frais des électricités, l'énergie va augmenter. On a une grosse crise énergétique, alimentaire, mais elle favorise pour se différencier de Rishi Sunak, mais aussi un petit peu à l'image de certaines époques de Margaret Thatcher, de faire des grosses coupes budgétaires sur la TVA, les impôts. Mais bien sûr, qui va profiter, si elle le fait après, de ces coupes qu'elle a annoncées, c'est surtout les personnes de la classe moyenne, les plus aisées. Et donc, elle est en complètement décalage avec les personnes les plus défavorisées, mais aussi les autres aussi.
Mais justement, donc, est-ce que c'est délibéré? Et comment donc expliquer cette déconnexion entre les problématiques du royaume et cette campagne et cette manière d'annoncer ce qu'elle va faire?
C'est une politicienne chameleon. Elle a changé son discours entre les élections parmi ses députés et ensuite parmi les adhérents. Elle sait plaire à son public, elle sait lire une salle, elle sait dire ce qu'il faut dire. Mais on est beaucoup à penser que parler, communiquer, c'est pas la même chose que d'avoir des connaissances économiques, sociales et de comprendre la vraie difficulté qui traverse le pays. Parce que pendant cette campagne, les deux candidats ont été obsédés complètement par leurs propres élections et non pas par les problèmes du pays. Ils ont même pas annoncé un budget en urgence et des choses comme ça. Donc, elle est adhérente par rapport à l'électorat dans son ensemble.
Précisément sur la question de l'augmentation de la facture énergétique, qu'est-ce qu'elle propose face à l'augmentation qu'on prévoit de 80% en Grande-Bretagne des factures d'électricité?
Oui, les factures ils vont augmenter en octobre parce que n'oubliez pas qu'en Angleterre, c'est privatisé. Et donc, pour l'instant, on attend...
Bien, visiblement, nous avons perdu Sarah Picard, la maître de conférence en civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne, nouvelle et spécialiste des jeunes et de la politique en Grande-Bretagne, qui commentait donc ce matin pour nous. Ah, vous êtes de nouveau avec nous. Alors, en parallèle, Sarah Picard, puisque vous nous entendez, évidemment, en parallèle, et alors que les Britanniques soutiennent massivement le mouvement de grève qui avait paralysé de nombreux secteurs stratégiques du pays cet été, qu'est-ce qui a été fait à Westminster pour soutenir le pouvoir d'achat et anticiper la crise de l'énergie donc, que le pays va affronter?
Très peu de choses. Il y a eu un petit somme qui a été alloué à tous les foyers, mais c'est une goutte d'eau par rapport au problème. Et c'est pour ça qu'on voit autant de grèves qui continuent. Mais il n'y a pas que ça que les trusts doivent essayer de résoudre. Il y a des problèmes dans le service de santé qui est en grande défaillance. Il y a les questions du logement, il y a les questions avec l'Irlande du Nord. Elle a 10 jours pour essayer de régler le protocole sur l'Irlande du Nord avec l'Union européenne. Il y a toutes les questions internationales, y compris la France, et d'essayer de se remettre en bonne entente. Il y a beaucoup de choses.
Oui. En 2019, Sarah Picard, Boris Johnson, avec sa campagne Get Brexit Done, avait ravi au Labour, donc les travaillistes, les circonscriptions ouvrières du nord de l'Angleterre, la fameuse ceinture rouge, la surenchère libérale des candidats Truss et Sunak, donc pendant la campagne. Est-ce qu'elle risque pas de se payer dans les urnes pour le Parti conservateur, notamment pour les élections de 2024? Est-ce qu'il y a déjà des projections qui sont faites?
Les prochaines élections sont a priori en 2024, mais peuvent être anticipées plus tôt. Mais bien sûr, le mur rouge dont vous parlez, c'était des personnes surtout de la classe ouvrière dans les circonscriptions qui votent traditionnellement à gauche, qui ont pivoté sur Boris Johnson et aussi contre Jeremy Corbyn. Maintenant, il y a un nouveau chef de parti qui est Starmer, qui est beaucoup plus modéré, qui essaye de tirer le parti vers le centre et qui soutient pas tout à fait les syndicats. Donc, il s'agit de si le Parti travailliste arrive à récupérer ses voix des personnes de la classe ouvrière et les moins modestes. Qui sont ceux qui souffrent le plus en ce moment après, on est au 12 ans du Parti conservateur.
Mais justement, les travaillistes ne brillent pas spécialement dans les sondages. Et pourquoi et qu'est-ce qu'on reproche exactement en Grande-Bretagne à Keir Starmer, le leader des travaillistes?
Keir Starmer est de la classe moyenne et que vu qu'il a essayé de tirer le parti vers le centre, en même temps que le parti conservateur allait plus vers la droite, il n'a pas su tenir un discours idéologique, de proposer des politiques concrètes qui peuvent plaire au public. Lui, il a dit que c'était parce qu'il était élu pendant le confinement et que, etc., et qu'ils vont attendre pour annoncer les projets. Mais à mon avis, il n'a pas su mobiliser ou utiliser ces 8 semaines, même plus, pour donner un discours fort et clair aux électeurs, pour être un alternatif. Mais ils montent dans les sondages, ils sont bien plus hauts que le parti conservateur. Maintenant, à lui de proposer des choses. Lui, il a déjà proposé, par exemple, de congeler les factures d'électricité et les tarifs et que le conservateur ont déjà suggéré qu'ils vont adopter. Donc, voilà.
Quel est le rapport, pour revenir à Liz Truss et donc à cette première ministre britannique, qui va donc présenter son gouvernement très prochainement, quel est son rapport à la jeunesse? Est-ce qu'elle est aussi tranchée que ce qu'en dit la presse britannique? Elle a par exemple dit qu'elle peste contre les woke, comme elle dit, et elle a d'ailleurs déclaré qu'une femme trans n'est pas une femme. Est-ce qu'elle est aussi tranchée qu'elle en a l'air?
Elle est pas du tout dans l'optique de l'ouverture d'esprit et d'être à l'écoute de la jeunesse, mais ni tout ce qui est de gauche qu'elle a présenté comme une ennemie, hein, de toutes les, on dit culture wars, hein, les différences entre les générations, mais aussi les idéologies. Et sûr, elle ne plaît pas à la jeunesse non plus par rapport à ses annonces pour l'environnement, l'écologie, etc. Et donc, ce sont des questions qui tiennent vraiment à cœur à beaucoup de personnes dans la jeune génération. Elle-même, elle était, ce qui est marrant, c'est qu'elle était au Parti libéral-démocrate quand elle était à l'université d'Oxford, quand elle faisait ses études, et ses parents sont très à gauche. Et qu'elle a manifesté. Donc, il y a un décalage entre ses origines sociales, politiques, et aussi un décalage par rapport à cette jeune génération qui est déjà pas du tout confiance dans l'élite politique. Et donc, ce n'est pas du tout positif pour l'environnement, pour la jeunesse, qui souffre depuis des années avec l'austérité.
C'est vrai que les militants Extinction Rebellion britanniques, donc le mouvement de désobéissance civile écologiste, se sont enchaînés et englués à la Chambre des communes vendredi dernier pour s'indigner de l'absence de débat sur la transition écologique au Parlement britannique. Qu'est-ce que propose la nouvelle Première ministre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, qui est un objectif auquel Londres s'est engagé, Sarah Picard?
Oui, Extinction Rebellion a demandé aussi une autre façon de faire la politique avec les assemblées des citoyens. Qu'est-ce que propose Liz Truss? Elle a dit qu'elle est contre, par exemple, les taxes vertes qu'elle va écarter. Et que l'écologie, le monde, ce n'est pas sa priorité et que ça emmène à des problèmes économiques. Donc, ça fait assez peur aux personnes, enfin, à tout le monde, hein. Mais par rapport au combat contre le réchauffement du climat, c'est assez inquiétant parce qu'on peut voir sa priorité avec les entreprises, la finance et que le reste, elle s'en fiche. Elle va réinstaller fracking, donc l'extraction des gaz.
L'extraction, le forage pétrolier. Hein. Et les fractures hydrauliques pour aller chercher le gaz de schiste, en effet. Dernière question rapidement à Sarah Picard. Quelle est l'attitude de Liz Truss par rapport à la question écossaise, sachant qu'elle a quand même dit à plusieurs reprises qu'elle préférait ignorer la première ministre écossaise Nicola Sturgeon sur l'idée d'un éventuel référendum en Écosse?
Oui, c'est encore un exemple de son manque de diplomatie. Elle va dire que c'est parce qu'elle est forte, elle n'a pas peur de dire des choses comme elles sont. C'est quand même assez indélicat de critiquer le Premier ministre de l'Écosse qui est élu largement depuis plusieurs années et qui demande un référendum sur l'indépendance de l'Écosse, encore une fois, pour pouvoir après rejoindre l'Union européenne. Donc, elle a beaucoup de choses à faire au niveau de l'Irlande du Nord, l'Écosse, la France, l'Union européenne, etc. Elle a beaucoup à faire et puis beaucoup de gens n'ont pas du tout confiance en elle et elle est très mal aimé, comme dans la chanson de Renaud qu'on a écouté juste avant sur Margaret Thatcher.
Et en effet, en Écosse, on dit d'ailleurs que Nicola Sturgeon, hein, cette première ministre écossaise, a une assise électorale. Elle a été élue par plus de gens que Liz Truss, puisqu'elle n'a été élue, Liz Truss, que vous choisissez, que par 0,3% du corps électoral britannique. Merci beaucoup, Sarah Picard, d'avoir été avec nous ce matin dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste des jeunes et de la politique en Grande-Bretagne.
France Culture, l'esprit d'ouverture.